Science en question par Étienne Klein. Aujourd'hui, pourquoi croit-on ? À des degrés divers, les croyances conditionnent à notre insu certaines de nos décisions, sous-tendent la plupart de nos choix et déterminent maints aspects de nos vies. Comment se construisent-elles ? Comment évoluent-elles ? Où trouvent-elles des espaces pour se développer ? Résultent-elles de processus psychologiques, de mécanismes purement cérébraux ou de quelque autre force ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Ripoll. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie cognitive à l'université d'Aix-Marseille et vous êtes l'auteur d'un livre qui répond très exactement à la question posée qui s'intitule « Pourquoi croit-on ?» qui est paru aux éditions Sciences Humaines. Ma première question porte sur la définition du verbe « croire ». Si je dis « je crois que », j'admets que je doute de façon implicite. Et pourtant, dans le langage courant, la croyance est plutôt associée à la certitude.
Eh oui, on est confronté à un problème classique de sémantique. Les mots ne sont pas clairement définis pour la plupart d'entre eux et le mot croyance ne fait pas exception. Donc effectivement, j'ai voulu rappeler dans le livre que lorsqu'on dit je crois, normalement on présuppose une part minimum de doute, sinon on dirait je sais. Mais en réalité, dans bien des cas, lorsqu'on dit « je crois », ça s'apparente plutôt à la certitude. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement le fait que on puisse avoir des certitudes, alors qu'en théorie, il n'y a pas grand-chose ni pour les soutenir, ni théoriquement, ni empiriquement. C'est ça qui m'a questionné, qui m'a fasciné. Comment est-ce possible qu'un cerveau d'humain, aussi puissant soit-il, puisse à ce point développer des croyances que j'ai appelées infondées, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soutenus théoriquement et empiriquement.
Mais c'est même plus grave que ça, il n'y a pas que la question de la définition, il y a aussi que quand je dis que je crois que, je dis autre chose que si je dis que je crois en ou que je crois à. Et donc il y a des modalités différentes du verbe croire.
Oui, c'est encore le problème, c'est que la pensée humaine est infiniment plus subtile que les mots dont on dispose pour l'exprimer. Le mot est assez grossier et il peut avoir des significations totalement différentes. Donc c'est une juste précaution de commencer par définir clairement l'objet d'étude. Sinon on peut se perdre dans des significations qui sont très éloignées de celles qui m'intéressent.
Thierry Ripoll, dans votre livre, racontez la première fois dans votre vie. Vous aviez 7 ans, je crois.
Oui, à peu près, 7, 8 ou 9 ans par là.
Vous avez découvert que vous aviez un esprit sceptique qui a peut-être conduit par la suite à ce que vous...
En fait, oui, j'ai dû tomber dans la soupe assez jeune et c'est là qu'on voit que le milieu familial a une certaine incidence parce que je pense être né et avoir été élevé dans un milieu assez sceptique. Mais effectivement, l'anecdote est la suivante. J'ai une insolation assez forte, donc beaucoup de fièvre. Et puis, donc mes parents diagnostiquent une insolation et une dame vient et prétend pouvoir me soigner en mettant une casserole au-dessus de ma tête et en psalmodiant des paroles qui étaient censées permettre à la chaleur que j'avais accumulée de partir, de se dégager de ma tête et aller dans l'eau de la casserole.
Qui était chaude. Donc ça va du chaud vers le chaud.
Voilà, c'est ça. Il y avait une espèce d'attraction liée à la similitude des substances. Et ça m'a évidemment, j'étais très jeune, j'étais incapable d'identifier la bizarrerie, d'analyser en tout cas la bizarrerie, mais je percevais qu'il y avait quelque chose qui était absolument insoutenable. Et c'était très bizarre, parce que cette femme était âgée, et moi j'étais un enfant, et elle a compris que je doutais, probablement par mes attitudes, et puis évidemment le lendemain j'étais guéri, et là elle est venue me voir en disant, bah tu vois, ça marche. Ce qui est l'illustration classique du fonctionnement de la croyance. Et moi je les regarder avec un sourire intérieur en me disant « mais c'est incroyable, en plus elle a cru que ça avait marché ».
Alors je ne sais pas si vous le savez, je suis sûr que vous savez en fait, enfin je crois que vous savez, Thierry Ripoll, en février 2022, une enquête a été menée en France sur l'esprit critique par le cabinet Grèce. C'est une enquête assez complète qui montre que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup de Français ont un très fort intérêt pour la science. Mais l'enquête montre également que 52% des personnes interrogées pensent qu'une théorie scientifique est une hypothèse comme une autre. Est-ce que ce résultat vous surprend? Est-ce qu'il n'est pas contradictoire avec le fait qu'on se déclare intéressé par la science?
Oui, alors, est-ce que le résultat me surprend? Non, parce que lorsque je fais des conférences, je décris trois postures épistémiques. Et parmi ces trois postures épistémiques, il y a une posture qu'on appelle relativiste. Et cette posture relativiste, en gros, ça correspond à ça. Nous développons des croyances, les croyances se construisent, elles peuvent se discuter, elles peuvent se négocier, et la science est une croyance comme les autres. Et quand je demande aux personnes d'indiquer dans quelle posture ils se reconnaissent, très souvent, ils se reconnaissent dans cette posture-là. Donc ça ne m'étonne pas. Ensuite, est-ce que c'est compatible avec l'intérêt pour la science ? Alors, je ne sais pas si vous dire malheureusement ou non, mais en tout cas, oui, c'est compatible. Parce que on peut très bien être, y compris un scientifique, et, alors, il faut s'entendre ce qu'on entend par scientifique, bien sûr, mais on peut avoir un goût très très fort pour la science et en réalité avoir un fonctionnement cognitif qui n'est pas celui que devrait avoir un scientifique. Donc il y a des tas d'antinomies, de paradoxes tout à fait étonnants. Et puis, bon, tout le monde connaît le cas de toute façon de ces scientifiques extrêmement... extrêmement reconnus, qui pour autant ont des croyances magiques, des croyances infondées. Et c'est ça qui est aussi passionnant, c'est de voir que dans le même cerveau peuvent cohabiter deux modes d'analyse complètement différents de l'information.
Mais sur la science, vous écrivez par exemple, pour beaucoup de nos concitoyens, la science est un monde austère, fermé, peu capable de créativité et parfois contaminé ou manipulé par le pouvoir économique ou la politique. Triste descente aux enfers de l'activité humaine, dites-vous, probablement la plus noble, la plus créatrice, la plus novatrice, la plus ouverte et évidemment la plus apte à nous permettre d'accroître la compréhension de notre univers et de nous-mêmes. Dans ce contexte culturel inquiétant, les croyances magiques regagnent de leur vigueur passée. Elles apparaissent pour beaucoup comme une libération face à l'austérité de la pensée scientifique. Et est-ce que ça se mesure, ça?
Alors,
l'accroissement de ce que vous appelez la pensée magique?
Alors, en fait, souvent on me demande si la pensée magique s'est accrue ou a diminué tout au long de l'histoire. En fait, le problème, c'est qu'on ne dispose pas de statistiques très anciennes. Il y a des témoignages, mais on ne dispose pas de statistiques. Donc, on n'a pas de, il n'y a pas de réponse extrêmement précise à cela. Par contre, ce qui peut étonner, c'est compte tenu de ce qu'ont été les progrès scientifiques, de ce qu'ils ont permis, on peut être étonné du doute que beaucoup de personnes ont malgré tout vis-à-vis de la science. Et puis c'est un point qui m'importe parce que très souvent les personnes que je rencontre à l'occasion de conférences ou d'échanges autour du livre me disent mais ton monde est complètement désenchanté. Et comme si la science désenchantait le monde. C'est et là. Ça, c'est une simplification, une caricature terrible.
Dans cette émission, on pense exactement le contraire.
Pardon ?
Dans cette émission, on pense le contraire.
Totalement.
On pense qu'il y a, au contraire, un érotisme de la science.
Absolument, parce que effectivement, pour moi, la pensée scientifique est une des pensées les plus créatrices qui soit. C'est quand même tout à fait étonnant d'ailleurs qu'un cerveau d'humain soit capable de créer des spéculations qui fonctionnent, parce que des spéculations qui fonctionnent pas à la rigueur ça pourrait se comprendre, mais le fait qu'elles fonctionnent aussi bien c'est tout à fait étonnant. Et en plus, la science, en permanence, est en train d'ouvrir le monde dans lequel on est, puisque c'est un fait bien connu. Plus je sais de choses, plus je sais que j'en ignore. Alors que la croyance réduit le monde. Il tend à le circonscrire dans des limites.
Le simplifier.
Pour moi, le monde de la croyance est un monde qui manque terriblement de poésie, d'extravagance même.
Mais ce que vous appelez la pensée magique, c'est la croyance en l'existence d'un monde caché.
Alors,
et vous dites, la force du monde caché est sans limite.
Oui.
Mais quand on est scientifique, est-ce que implicitement on ne croit pas à une sorte de monde caché qui serait le monde des lois, par exemple?
Ah oui, absolument.
Qu'il faut découvrir au-delà des phénomènes, parce que observer ne suffit pas pour comprendre.
Absolument. Je crois que cette hypothèse du monde caché, que parfois on appelle le monde distal par opposition au monde proximal, c'est quand même ce qui fait la singularité de l'homme. C'est-à-dire que les hommes ont un cerveau suffisamment puissant pour pouvoir spéculer sur ce qui est au-delà de ce qui est directement accessible.
Ils font des expériences de pensée, par exemple.
Par exemple.
Qu'est-ce qui se passerait si...
Absolument. Et ça, les enfants le font très très tôt. Donc c'est, ça joue un rôle extrêmement grand dans notre maîtrise scientifique, mais ça joue un rôle extrêmement grand dans le développement de l'enfant, qui en permanence agrandit son monde au travers de cette spéculation qu'il fait sur le monde caché. Et là où je suis tout à fait d'accord, c'est que qu'il s'agisse de philosophes, qu'il s'agisse de croyants au sens où je le développe dans le livre, ou de scientifiques, de toute façon, tous partent sur cette base qu'il existe un monde au-delà du monde, qu'il y a une réalité ultime,
fondamentale,
qui est peut-être au-delà de ce qui est directement accessible. La grande différence entre philosophes scientifiques et croyants, mais surtout, je dirais, entre philosophes scientifiques et croyants, c'est les moyens qu'on se donne pour valider quelque chose concernant ce monde caché. L'exigence qu'ont mis au point les philosophes est infiniment plus grande que celle qu'ont mis au point les croyants, et l'exigence qu'ont mis au point les scientifiques est encore au-delà, je pense. C'est ça qui est absolument, je trouve, merveilleux dans l'esprit humain, c'est à la fois cette capacité créatrice, spéculative, un peu débridée, qui peut aller un peu n'importe quoi, mais associée à des moyens, une méthodologie qui n'est pas si vieille que ça, qui permet de contraindre, à un moment donné, l'objet de cette spéculation. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire.
Thierry Ripoll, vous savez que dans cette émission, il arrive qu'on aime beaucoup les anagrammes.
Oui.
Et ça va avec le sens caché, puisque les anagrammes, c'est une affaire de hasard.
Totalement.
On permute des lettres, on voit ce que ça donne. Il ne faut pas y chercher un sens caché, mais on ne peut pas s'empêcher d'y trouver un sens caché. Comme si on était tous un peu kabbalistes.
Oui.
Alors, Olivier Garcia, qui m'aide beaucoup pour cette émission à trouver des anagrammes, on a trouvé pour vous certaines que je trouve assez extraordinaires. Je vous les donne.
Ouais.
La superstition des hommes. Ça engendre, anagramme, les triomphes des Manitou. Ça vous va, ça? La crédulité de masse engendre des maladies des lecteurs. C'est l'anagramme. La science et les opinions, quand on les mélange, engendrent des inepties occasionnelles. Et une qui va vous plaire, la dernière, le poids de notre certitude est le décor de notre stupidité.
Qui est-ce qui a trouvé ces mots?
Olivier Garcia.
Ah ben, bravo.
Un jeune homme très doué. Alors, dans votre livre, vous expliquez certains des biais qui nous portent vers les croyances. Et il y en a un que j'ai trouvé tout à fait spectaculaire parce qu'il s'applique à beaucoup de situations. C'est ce que vous appelez la loi de contagion.
Oui.
Mmh. Est-ce que vous pouvez la rappeler ?
Oui. Alors, la loi de contagion, c'est quelque chose d'assez ancien, en fait. Hein. Ça a été identifié par les anthropologues fin du 19e, 20e. En fait, c'est cette idée que les objets peuvent communiquer entre eux. Quelque chose qui est présent dans un objet peut être transmis à un autre objet. Quelque chose qui est présent chez un homme peut être transmis à un autre homme par des raisons qui ne sont pas identifiables. Le cas, pour donner un exemple, hein, parmi des milliers, on a fait l'expérience suivante. On dit à des personnes qui jouent au golf qu'on va leur permettre de jouer avec un club qui est le club d'un très très grand joueur. Et en fait, le simple fait de savoir qu'ils ont dans leurs mains le club de ce très très grand joueur va avoir une incidence sur leur qualité de jeu. Comme si quelque chose du génie du propriétaire du club s'était transmis à l'objet qui, de nouveau, s'était transmis par contagion au nouveau détenteur. Et ça, cette idée, elle est extrêmement fréquente. Alors, elle a une base, hein, je veux dire, la base, c'est la contagion réelle. Ça existe, la contagion, notamment dans le domaine de la maladie, bien sûr. Et à l'époque, on avait déjà observé ces contagions sans pouvoir identifier l'origine de la contagion. C'est beaucoup plus tard qu'on a su ce qu'étaient les virus, par exemple. Eh bien, ça a été en quelque sorte étendu à des aspects qui ne peuvent pas être contagieux. Par exemple, des propriétés d'un objet ne peuvent pas se transmettre aux propriétés d'un autre objet. Et ça, c'est extrêmement fréquent. On l'a tous un peu en tête.
Vous citez, Thierry Ripoll, dans votre livre, une expérience qui date de 1986, je crois. On demande à des personnes de tirer des fléchettes sur une cible.
Oui.
Et sur la cible, on met tantôt la photo d'un enfant, tantôt la photo de Hitler, tantôt la photo d'une personne appréciée.
C'est ça.
Et on voit que les gens mettent plus de flèches dans la cible représentant Hitler que quand c'est une personne aimée ou un enfant, comme s'il y avait scrupule à toucher une personne pour laquelle ils ont plutôt de l'affection.
Absolument.
Mais juste pour finir, vous dites, vous dites, ils ont peur qu'en touchant l'image de l'enfant, on va toucher l'enfant lui-même.
C'est ça.
Mais est-ce qu'on pourrait pas interpréter l'expérience autrement en disant que quand il s'agit d'Hitler, on est plus motivé et donc on veille à mieux tirer.
Oui, c'est vrai que cette expérience peut donner lieu à différentes interprétations. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont infiniment moins ambiguës que celle-là. Et en tout cas, ce qui est évident, c'est que à un moment donné, l'image, ici il s'agit d'image, donc l'image c'est pas l'être ou c'est pas l'objet, mais l'image dans notre esprit, peut-être dans une partie assez archaïque de notre fonctionnement psychologique, y compris le nôtre, le vôtre, le mien, cette image est liée à l'objet réel, d'une manière ou d'une autre. Et ça a des implications. Alors on peut rationnellement les refuser. Mais on sait qu'elles peuvent avoir un rôle effectif. C'est par exemple le fait d'un objet qui appartient à une personne que l'on a beaucoup aimée ou une personne qu'on estime beaucoup. Eh bien, on considère que cet objet est porteur de quelque chose de cette personne. Or, peut-être pas moi, mais on a montré dans de multiples expériences que ça fonctionnait très bien. Il y a une autre expérience de ce type qui est assez symptomatique. On a mis une bouteille d'eau et sur cette bouteille d'eau, on a mis une petite étiquette indiquant que c'était une substance toxique mais qui avait la même couleur que l'eau. Bon, et on met l'étiquette devant la personne. Donc elle a bien vu que c'est de l'eau mais qu'on a mis une étiquette. Mais à partir du moment où on a mis une étiquette, eh bien, personne a quelques scrupules ou quelques difficultés à accepter de boire cette eau. Enfin, pas tout le monde, mais un certain nombre de personnes ont une résistance. Comme si il y avait une relation possible, tout à fait magique en fait, entre le nom qui représente la chose et la chose elle-même.
Vous donnez beaucoup d'exemples de ce type dans votre livre qui est passionnant. Il y en a deux sur lesquels je voudrais revenir. C'est l'exemple de vos étudiants qui disent ne pas croire en les phénomènes magiques. Mmh. Mais lorsque vous leur demandez de dire cette phrase, j'aimerais que mon père ou ma mère meure, vous sentez qu'ils hésitent, voire refusent.
Ah oui, mais c'est...
Parce qu'ils pensent que leurs paroles pourraient avoir un effet sur la santé, la vie de leurs parents. Mais est-ce qu'on peut pas imaginer que s'ils refusent, c'est simplement parce qu'ils refusent de dire un mensonge?
Non, moi je crois pas. Je crois pas que... D'abord parce que les hommes mentent régulièrement, donc il y a pas trop de problèmes à mentir. Mais non, c'est vraiment... parfois c'est très spontané quand je demande à mes étudiants, je fais le coup presque à chaque fois, je me dis mais attendez, mais c'est hors de question, monsieur. Et là je précise, mais attention, on est bien d'accord que c'est pas lié à votre intention, ce sont des mots. C'est tout. Moi je vous demande de les prononcer sans que ce soit lié à une intention. Et ils refusent. Alors, quand ils refusent, si je leur demande pourquoi, ils ne me disent jamais, parce que je crains que ces paroles puissent avoir un effet réel. Ils ne le disent pas. Mais en fait, je suspecte que même s'ils le disent pas, il y a quelque chose en eux qui le perçoit et qui prend ce risque au sérieux. Donc une partie probablement assez archaïque de notre fonctionnement cognitif qui ne peut pas s'empêcher d'établir un lien potentiel entre une parole et une action. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans la prière, hein, sauf que la prière, elle a comme objectif de déclencher quelque chose de positif, mais c'est bien ça qui est en jeu, hein, bien sûr.
Dernier exemple, avant qu'on parle des aspects plus théoriques, mais il y a une étude incroyable, tellement incroyable que j'y crois pas. Enfin, est-ce qu'il y a un mot d'ailleurs pour dire le fait de ne pas, de croire qu'il est impossible de croire telle ou telle chose? Qui nous semble incroyable.
Bah, vous êtes sceptique.
Alors voilà, c'est une expérience qui consiste à proposer à des personnes de jouer au loto. La moitié d'entre elles a choisi son numéro, l'autre a reçu un numéro aléatoire généré par ordinateur.
Oui.
Dans les deux cas, le billet présentant le numéro valait 1 euro. Mm. Donc tous les billets valent 1 euro. Mm. On propose ensuite à ces personnes de vendre leurs billets. Mm. Celles qui n'ont pas choisi leur billet ont accepté de le céder en moyenne pour 1,96 euros, alors que ceux qui l'ont choisi, leur billet, l'ont cédé pour une valeur moyenne de 8,67 euros. Oui. En clair, le fait d'avoir choisi son billet conduit à croire que l'on a davantage de chances d'être gagnant, alors même que les deux types de tirages aléatoires, rappelons-le, sont strictement équivalents. Et ça me semble incroyable. Mais peut-être qu'ils sont plus baratineurs.
Non, c'est cette cette croyance de liée au fait que par le pouvoir simplement de notre pensée, on peut infléchir le réel.
Mais on peut aussi gagner sa vie avec ce stratagème.
Ah oui, oui.
On gagne 8 fois plus.
Oui, absolument, absolument. Non, mais c'est tout à fait, effectivement, fascinant. Les gens croient beaucoup à la chance. Hein, c'est-à-dire que certains sont persuadés d'être chanceux, quand d'autres sont persuadés d'être malchanceux. Évidemment, ça n'existe pas. Mais ça détermine des comportements, par contre. Parce que les personnes qui sont absolument persuadées d'être chanceux, alors souvent ils disent qu'ils ont une espèce d'intuition qui leur permet d'identifier le choix optimal, ces personnes-là sont en danger, notamment par exemple quand elles jouent de l'argent, parce qu'elles sont persuadées qu'elles ont une espèce de connaissance magique et qui leur permet d'anticiper sur le numéro qui va sortir. Donc c'est en fait une pensée très commune que notre esprit a un pouvoir sur le monde. Donc il y a une espèce d'interaction possible entre notre esprit et le monde. D'ailleurs si vous jouez au 421, et vous compris, vous jouez avec des gens très très sérieux, hein, qui n'ont qu'une croyance, on va dire, hein, on est sceptique complet. Et si il doit jouer le 1, par exemple, s'ils doivent obtenir le 1, ou supposons qu'ils doivent obtenir le 6, ils vont pas du tout faire le même mouvement. Le 1, ça va être un petit mouvement, et le 6, ils vont mettre beaucoup d'énergie, parce que cette énergie est proportionnée
au tirage de la carte,
au chiffre qui va sortir. Donc, s'il faut un gros chiffre, il faut que je mette une grande énergie mentale, parce qu'en mettant une grande énergie mentale, je vais parfois l'obtenir.
Thierry Ripoll, est-ce que c'est ça qu'on appelle le biais d'auto-attribution ?
Oui, c'est ça, absolument. Il y a des tas d'expériences où on a fait croire à des sujets qu'ils pouvaient infléchir le hasard, à partir, peu importe, procédés techniques, etc. Mais nous, on s'était débrouillés en temps.
Les joueurs de foot, par exemple, quand ils tirent à pénalty, ils ont des petites...
Oui, absolument.
Mimiques.
Oui. Alors, on leur fait croire que c'est peut-être possible d'infléchir le hasard, mais nous, c'est nous qui contrôlons la sortie, hein, et donc on sait qu'il n'y a que le hasard qui est intervenu. Et on se rend compte qu'il y a certains sujets, notamment ceux qui sont les plus croyants, qui sont persuadés, ils sont vraiment persuadés qu'effectivement, il y a eu un lien entre ce qu'ils ont souhaité et ce qu'ils ont obtenu. Donc c'est effectivement de l'auto-attribution, c'est-à-dire qu'on s'attribue la responsabilité, la cause, le pouvoir de ce qui est arrivé.
Mais est-ce qu'il arrive, par exemple, que les gens qui supportent une équipe au moment des tirs au but, oui, par leur soutien, croient que c'est leur soutien qui a permis au pénalty d'être marqué?
Totalement, totalement. Je raconte dans le livre une anecdote véritable d'un supporter d'une équipe de foot. Et puis bon, comme souvent dans les équipes de foot, les spectateurs boivent un peu trop de bière, donc il est obligé d'aller libérer sa vessie pendant le match, et quand il revient, il y a un but qui a été marqué.
Contre.
Oui, contre son camp. Ouais. Et là, c'est dit, c'est parce que j'ai arrêté de les soutenir.
Là, c'est l'inverse, là.
C'est l'inverse, mais c'est encore une fois le pouvoir de l'esprit sur une réalité matérielle. On a fait la même chose, la même expérience, en proposant à des gens, au moment de prendre leur avion, de leur donner, par exemple, 100 euros, s'ils acceptaient de dire « j'aimerais que cet avion se crache ». Il y a très peu de gens qui acceptent. Très, très peu.
Peut-être 1000 euros.
Et il faudrait faire l'expérience, mais ça coûte cher.
Vous faites en fait des études scientifiques sur les croyances.
Hein, oui, c'est ça.
Avec des protocoles, des sortes d'expériences.
Oui, totalement.
Presque comme celle des physiciens d'ailleurs.
Absolument.
En essayant d'isoler les variables, etc.
De mon point de vue, l'activité scientifique demeure à peu près la même, quel que soit le champ disciplinaire. Donc,
Mais vous avez montré que la pensée magique se développe surtout en situation de stress.
Oui.
Est-ce que ça se comprend? D'abord, comment est-ce qu'on l'observe? Comment est-ce qu'on le mesure? Et est-ce que ça peut se comprendre soit par des lois psychologiques, soit par l'activité du cerveau?
Alors, je vais commencer par la deuxième, parce que, en fait, vous l'avez dit aussi dans l'introduction, et c'est un truc auquel je suis sensible. Pour moi, la psychologie et le cerveau, c'est la même chose. Puisque je suis un physicaliste radical, je fais aucune différence entre la psychologie et le cerveau. C'est deux manières d'appréhender la même chose.
Donc dire explication psychologique des croyances ou bien...
Voilà, c'est l'explication qui peut être différente. Effectivement, elle peut être de nature psychologique ou de nature plutôt neuronale. Mais en fait, c'est le même objet que l'on décrit par des angles
mais
différents.
Mais ça change les mots par lesquels on explique les choses.
Oui, totalement. C'est le niveau d'analyse n'est pas le même, mais c'est le même objet que l'on étudie.
Bon, on supprime cette différence. Voilà.
Alors, simplement par rapport au stress, oui, il y a des observations, il y en a eu d'état. Mais il y en a une qui est très belle, je trouve, c'est celle de Bronislav Malinowski, qui est un anthropologue, et qui avait observé la chose suivante, sur des îles du Pacifique. Il avait observé qu'à l'intérieur d'une même communauté, il y avait des pêcheurs qui pêchaient au large, donc à l'extérieur des atolls, de la barrière de corail, et d'autres qui pêchaient à l'intérieur, dans le lagon. Et il s'était aperçu que les pêcheurs qui allaient au large développaient beaucoup de rituels, développaient beaucoup de croyances magiques. Et donc, il s'était dit, pour quelle raison, alors qu'ils sont issus de la même communauté? Et l'explication tout à fait pertinente qu'il avait intuitionnée était de dire, c'est probablement parce que ceux qui vont au large sont soumis à un stress beaucoup plus grand, parce que, surtout dans ces conditions-là, à cette époque-là, on maîtrisait pas bien la météo, la navigation, etc. Alors que ceux qui naviguent dans le lagon rencontrent peu de risques. Et donc peut-être que le risque perçu, donc le stress occasionné par ce risque, va induire davantage de croyances magiques. Depuis, ça a été fait expérimentalement, et c'est très très facile à le faire. Vous prenez deux groupes de sujets, qu'on a appariés sur tous les critères, comme il se doit. Et puis, un groupe de sujets, vous le stressez. C'est assez facile, il y a plein de manières de stresser un groupe de sujets. Et un autre groupe de sujets, vous ne le stressez pas. Et ensuite, vous leur présentez des phénomènes difficilement interprétables. Et vous regardez comment ils interprètent ces phénomènes. Et on va s'apercevoir que les personnes qui ont été stressées vont interpréter de manière magique plus fréquemment que ceux qui n'ont pas été stressés. Alors moi, je vais vous raconter une expérience que j'ai faite à ce sujet, que j'ai trouvé assez amusante. Il s'agissait de cette scène magnifique et terrifiante de 2001, l'Odyssée de l'espace, où à un moment donné, il y a un des spationautes qui part à l'extérieur, et puis on lui coupe la liaison avec le vaisseau, lié à l'intelligence artificielle menaçante qui était dans le vaisseau, et là, on le voit s'éloigner dans l'infini de l'espace, et on entend son souffle, dans cet espace immense et vide. Et ça, ça génère un stress, parce qu'on se projette bien sûr dans ce personnage. Donc j'ai fait une expérience où j'ai présenté cette vidéo, ou une autre vidéo absolument pas stressante, tout à fait un paysage, un animal qui se promène dans un pré. Et ensuite, j'ai mesuré le niveau de croyance, à partir de quelques questions, que manifestaient ces sujets-là. Et les sujets qui avaient perçu cet homme qui partait dans l'espace avaient un niveau de croyance, avaient révélé au niveau de leur réponse un niveau de croyance beaucoup plus important que les autres.
Mais c'était juste après avoir assisté absolument à la projection. Et combien de temps dure ce biais?
Alors ça, c'est difficile de dire, à mon avis peu de temps, parce que, je veux dire, le cerveau réactualise son état au fur et à mesure qu'il est confronté à des situations nouvelles. Mais par contre, il y a des stress qui peuvent perdurer, par exemple en situation de guerre. Ou par exemple, quand, je sais pas moi, puisque je sais que vous faites de l'alpinisme, quand on se trouve dans des grandes parois, que ça peut durer des heures et qu'on est en danger, là, peuvent être développées des croyances sur un timing un peu plus important. Mais en période de guerre, c'est très très vrai. Il y a des études qui ont été faites sur des femmes israéliennes, et les chercheurs ont comparé le niveau de rituel et le niveau de croyance de ces femmes de même culture selon qu'elles vivaient sous la menace de missiles palestiniens dans le cas présent, ou en dehors de cette menace. Et en fait, ça avait une grande incidence. Celles qui étaient sous la menace des missiles produisaient beaucoup plus de croyances magiques que les autres.
Mais on dit aussi que pendant les bombardements de l'Angleterre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui étaient loin de Londres avaient plus peur que les Londoniens qui s'étaient habitués.
Ah oui, alors après, effectivement, il y a ce phénomène-là d'habituation. Le stress, c'est une réaction du cerveau qui est en général ponctuelle pour faire face à une situation problématique. Mais effectivement, si elle s'installe dans le temps, le niveau de stress peut diminuer.
Thierry Ripoll, j'avais une question parce que votre livre en parle beaucoup, mais d'où vient que les croyances religieuses ont un haut niveau de respectabilité? C'est une première question. Et la deuxième, c'est est-ce que le fait de croire rend tolérant vis-à-vis des croyants qui croient à d'autres choses que soi-même?
Alors, la première question, le niveau de respectabilité, moi, je pense que, en fait, la respectabilité peut-être tient à deux choses. D'une part, que ces croyances ont une ambition beaucoup plus grande que beaucoup de croyances magiques, puisqu'il s'agit finalement de donner un sens au monde. Donc, on peut être difficilement plus ambitieux que ça. Donc, c'est énorme. Ensuite, l'autre raison, c'est que, je le développe pas mal dans le livre, beaucoup d'anthropologues évolutionnistes considèrent que les croyances religieuses ont eu une fonction extrêmement importante dans la capacité qu'ont les hommes de vivre entre eux en grande communauté. Et donc, on peut penser que le pouvoir dans ces premières grandes communautés d'humains du néolithique, le pouvoir avait tout intérêt à accorder un poids important à la religion parce que c'est elle qui contribuait, je dirais, à la vie pacifiée en société. Donc, ce sont sans doute les raisons qui jouent un rôle important dans la respectabilité de la religion. Et l'autre question, c'était est-ce que le fait d'être croyant au sens religieux du terme?
Oui, non, oui, disons oui, puisque ce sont les plus respectables.
Est-ce que
ça rend tolérant vis-à-vis des autres religions, par exemple?
Non.
Parce que je crois qu'il y a 10 000 religions qui
existent
sur Terre.
C'est ce
qu'on dit. Il est impossible qu'elles aient toutes raison.
Sauf
si elles disent la même chose.
Oui, mais alors elles disent souvent la même chose dans les grandes lignes, parce que c'est un produit naturel du fonctionnement neurocognitif humain, mais elles disent tous des choses très différentes aussi quand même. Si on prend par exemple simplement la manière qu'ont eu les religieux de traiter les croyances magiques. On peut dire même que l'intolérance a été maximale, mais tout simplement parce que elles sont concurrentielles. Quand on est...
Par exemple, l'idolâtrie.
La sorcellerie, c'est extrêmement mal perçu par la pensée religieuse. Et ce qui fait d'ailleurs, c'est assez amusant, que beaucoup de croyants, je connais pas mal de croyants au sens religieux du terme, parce que je les respecte, bien sûr, mais beaucoup de croyants sont extrêmement sceptiques vis-à-vis de toute type de croyances non religieuses, notamment tout ce qu'on appelle les croyances New Age. C'est quand même assez florissant depuis quelques dizaines d'années. C'est pas parce qu'on est croyant qu'on est tolérant vis-à-vis des autres croyances. En général, non.
Vous êtes d'accord avec moi, Thierry Ripoll, qu'on peut croire des choses folles sans être fou?
Oui.
Mais la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire, on ne peut pas être fou sans croire des choses folles.
Oui, absolument. Ah oui.
À partir de quel moment un niveau de croyance devient pathologique?
Alors ça, c'est vraiment très difficile à définir. Moi, j'ai pas vraiment de réponse à ça, parce que de toute façon, c'est assez graduel et c'est extrêmement normatif. De toute façon, c'est déjà normatif de définir ce qu'est la folie. C'est plus facile de définir ce qu'est une croyance, mais définir la folie, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi quelqu'un qui est persuadé de discuter, d'échanger avec des extraterrestres est considéré comme fou? Et pourquoi quelqu'un qui est persuadé pouvoir échanger régulièrement avec Dieu ne l'est pas? Ça, c'est quelque chose qui m'échappe totalement. Mais je crois que la réponse, elle est là clairement sociétale. Il y a des croyances qui sont... assez bizarroïdes, mais qui sont respectables parce que nos sociétés les a acceptées. C'est la seule raison.
Est-ce que les faux souvenirs font partie des croyances?
Alors, les faux souvenirs peuvent largement contribuer aux croyances infondées, c'est clair. Et on sait hein, que ça y contribue. Mais ce que l'on a observé, et ça c'est une donnée empirique qui est importante à prendre en compte, c'est que bon, tous les hommes fabriquent des faux souvenirs. Hein. Ça, c'est,
Est-ce qu'on comprend le mécanisme ?
Oui. Oui, parce que à peu près, hein, c'est-à-dire que notre cerveau, c'est une machine à créer des souvenirs. Enfin, je veux dire, c'est ce qui nous permet de survivre. Hein, sans mémoire, de toute façon, le système cognitif ne serait pas ce qu'il est. Mais le problème, c'est que nos souvenirs se dégradent dans le temps, et en fait, nous les restaurons régulièrement, consciemment ou inconsciemment, à partir des expériences vécues. Or, ce que l'on vit peut conduire à nous modifier. Et donc, la manière que l'on va avoir de recueillir, de récupérer un souvenir, va être déterminée par nos nouvelles expériences de vie. Donc, nos souvenirs évoluent au fur et à mesure qu'on évolue, en fait, qu'on vieillit, etc. Donc ça, c'est tout à fait normal, c'est un processus normal. Mais en revanche, ce qu'on a observé, c'est que les personnes les plus croyantes, qui sont caractérisées par ben, pas mal de choses hein, d'un point de vue cognitif, elles se distinguent des sceptiques par la propension qu'elles ont à produire de faux souvenirs. Sur des tâches qui n'impliquent pas du tout la croyance. Hein. Par exemple, je vous donne une liste de mots à mémoriser, et puis au bout d'une demi-heure, je vous demande de me rappeler des mots que vous avez mémorisés. Et on va observer que les personnes les plus croyantes ont plus tendance que les autres à rappeler avec certitude des mots qu'elles ont pensé avoir entendus, mais qu'en réalité, elles n'ont pas entendus.
Alors, s'agissant de la science, sachant que dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances scientifiques, des croyances, des opinions, des commentaires, des fake news, comment est-ce que l'esprit humain peut séparer le bon grain de l'ivraie et comment est-ce qu'on peut éviter qu'il y ait une sorte de contamination de ces différents éléments qui ont des statuts très différents, sachant qu'on ne peut pas vérifier toutes les sources, que l'information est devenue proliférante, de sorte qu'on est condamné à faire confiance par délégation en quelque sorte.
Oui. Bah, là, je pense que vous soulevez peut-être un des problèmes majeurs auquel notre société va être confrontée. Pour moi, c'est un truc énorme. Et c'est énorme parce que, en fait, ce que l'on sait du monde ou ce que l'on croit du monde, admettons, on ne va pas distinguer les deux là, mais tout ça, c'est ce qui détermine nos choix, nos actions, y compris le vote que l'on va mettre dans l'urne demain. Donc, si on se trompe sur la réalité du monde, parce qu'une croyance, de manière assez probable, se trompe sur la réalité du monde, il y a de fortes chances qu'elle induise un comportement qui n'est pas adapté à ce monde. Donc, c'est dangereux. Donc, la question de savoir comment on peut à peu près être assuré de disposer d'une information fiable. Bah, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas équipé pour. Parce que notre cerveau, il faut bien voir que notre cerveau, si, il faut toujours... moi, je suis très influencé par la perspective évolutionniste. Hein, notre cerveau, il a été formaté pour fonctionner au paléolithique. Hein, je veux dire, c'est l'environnement qui a été le nôtre pendant 300 000 ans d'Homo sapiens.
C'est-à-dire avec très peu d'informations.
Voilà. Et en fait, la quantité d'informations qu'on gérait n'était pas très importante. Et surtout, la quantité d'informations dont on disposait était très réduite. Aujourd'hui, n'importe quel humain a à portée de clic une quantité d'informations absolument gigantesque. Et nous n'avons pas les compétences individuelles pour traiter ces informations. Et c'est là où je pense qu'on entre, pénètre dans un problème qui est aussi politique, c'est que effectivement, on sait ou on croit par procuration ou par délégation, parce que par exemple, moi, je suis pas physicien, j'ai quelques connaissances en physique, mais énormément de phénomènes physiques qui ont lieu autour de moi, je serais totalement incapable de les expliquer. C'est évident. Mais je fais confiance à mes collègues physiciens qui, eux, sont capables de les expliquer. Et si cette confiance, pour une raison ou une autre, il peut y en avoir une quantité de raisons, si cette confiance à un moment donné disparaît, alors on ne sait plus du tout quelle information il faut prendre en compte pour motiver ses comportements. Et on entre dans une ère de relativisme qui est pour moi extrêmement dangereuse et qui est d'ailleurs souvent associée à des mouvements politiques populistes qui, en général, aiment bien cet environnement relativiste. Et ça, c'est extrêmement problématique. Et moi, je dois dire, à chaque fois que je fais des conférences quasiment, ou même pendant mes cours, mais les étudiants viennent me voir en me disant « Mais monsieur, mais... on veut bien vous croire, notez bien qu'ils disent vous croire, mais comment on peut faire ? Comment on peut faire ? Et il n'y a pas de recette, Et je dois dire que même moi qui ai du temps, je suis payé en quelque sorte pour ça, j'ai du temps pour essayer d'évaluer les informations que je traite, j'ai une certaine expertise scientifique, j'ai accès aux revues scientifiques, tout le monde n'a pas accès à tout ça, bien même moi il m'arrive de m'interroger, je peux être en difficulté. Donc j'imagine le citoyen, je dirais normal, qui n'a pas que ça à faire, hein, qui a d'autres fonctions importantes, eh bien, pour lui, c'est extrêmement difficile. Donc, une société dans laquelle la confiance a disparu est une société qui, à mon avis, est en très grand danger.
Où chacun peut choisir ses vérités.
C'est ça.
Au motif qu'il aime la vérité, mais il choisit dans le paysage qui lui est proposé, très diversifié, qui se contredit lui-même.
Ouais.
Bah, les idées ou les commentaires ou les informations dont il lui plairait qu'elles soient vraies.
C'est ça. C'est ça. Si je reprends une dichotomie freudienne, c'est le principe de plaisir qui prend le dessus sur le principe de réalité. En fait, on s'aperçoit. Parce que quand on étudie les croyances, on voit bien, on connaît bien les processus neurocognitifs qui vont. Conduire aux croyances. On les connaît assez bien aujourd'hui. On sait caractériser le fonctionnement neurocognitif d'un croyant. Et on pourrait croire que finalement on est croyant parce que notre cerveau nous prédestine en quelque sorte à être croyant. Mais c'est pas tout à fait ça. Il y a aussi vraiment un choix, je dirais presque épistémique, de chacun. C'est-à-dire, quelles règles je me donne, quels critères je me donne pour valider une information. Et clairement, il y a beaucoup de personnes qui font le choix de valider une information sur la base du fait que l'information leur est intuitivement acceptable et leur fait plaisir.
Et le titre suffit.
Oui. Parfois.
Nietzsche l'avait prédit dans l'avenir de la science. Il écrit que le goût du vrai va disparaître à mesure que la vérité procurera moins de plaisir.
Eh oui. Oui, il a tout à fait raison. Je pense qu'il y a dans notre manière de croire quelque chose qui est très lié au fonctionnement hédonique de notre cerveau. Hein. Faut pas oublier que notre cerveau a besoin de sens, il a besoin de rendre intelligibles les choses, et ça procure un réel plaisir. Hein. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le système de la récompense qui va s'activer au moment où quelqu'un a le sentiment de comprendre quelque chose. Et si on a l'occasion de comprendre à bon compte quelque chose, même si c'est une illusion de compréhension, du moment que ça satisfait le cerveau, bah c'est assez difficile d'y résister.
Dans votre livre, Thierry Ribol, vous dites qu'il est important de stimuler la pensée analytique.
Oui.
Bon, la question c'est comment on fait ?
Oui.
Et comment on tient compte du fait que parfois l'esprit critique, qui est un peu comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais.
Oui, c'est ça. Oui,
il arrive, il rend complotiste.
Et
on ne peut pas dire non plus que tous les complots soient faux.
Puisqu'il
y en a un dont on a tous été victimes, c'est le Père Noël.
Oui.
Qui est un complot des adultes.
Bien sûr.
À l'endroit des enfants.
Totalement.
Donc comment est-ce qu'on se débrouille avec ça ? Vous avez 2 minutes. Même pas.
Oui.
1 minute.
Eh bien, c'est vraiment, vraiment extrêmement difficile. C'est le problème sociétal numéro un auquel on est confronté. Alors oui, on peut booster le système analytique et normalement, je dirais, ça devrait être une des fonctions de l'éducation, que ce soit au collège, lycée, université, de renforcer ce système analytique. Et ça marche, puisqu'on observe que plus le niveau d'éducation s'accroît, plus le système analytique est boosté et plus il peut être exploité.
Avec des contre-exemples.
Avec des tas de contre-exemples, parce que, justement, notre cerveau a 2 modes de fonctionnement assez contrastés et parfois on va utiliser un mode de fonctionnement qui est d'abord là pour nous faire plaisir. Et dans ce cas-là, on abandonne la puissance du système analytique et la rigueur qu'il pourrait nous donner pour traiter les informations dont on dispose.
Il faudra revenir, Thierry Ripoll, parce que vous n'en avez pas assez dit.
Ben, j'ai dit ce que j'ai pu.
Il va falloir développer la méthode. En tout cas, je vous remercie d'être venu nous voir.
Merci à vous.
Je recommande la lecture de votre livre qui s'intitule « Pourquoi croit-on ?» avec comme sous-titre « Psychologie des croyances ». Et je crois que vous avez un autre ouvrage en préparation qui vient de sortir.
Oui, j'ai un ouvrage qui vient de sortir qui n'est pas sans lien avec celui-là, même s'il semble y avoir aucun lien. C'est un bouquin qui s'appelle « Pourquoi détruit-on la planète ?»
Merci à vous, c'était Science en question par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la prise de son d'Ali Yaha et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Tout de suite, vous retrouvez Bruno David pour le pourquoi du comment.
Ne vous êtes-vous jamais demandé si l'agriculture n'aurait pas dépassé les bornes ? Bien sûr, nous avons besoin de manger. Bien entendu, nous sommes nombreux, très nombreux sur Terre. Et par conséquent, nous avons besoin d'une agriculture efficace, en capacité de nourrir l'humanité, car il n'y a rien de plus injuste que de ne pas pouvoir se nourrir. Pour autant, certaines pratiques soulèvent de plus en plus d'interrogations au fur et à mesure que leurs effets collatéraux sont pris en compte. Que se passe-t-il ? Jusqu'où aller sans dépasser les bornes ? Une agriculture qui ne soit pas seulement de subsistance, mais intensive, au moins partiellement, est devenue indispensable. Une telle agriculture s'accompagne de l'usage d'intrants. C'est là que les problèmes surgissent. Mais que sont ces intrants ? En agriculture, les intrants correspondent à tout ce que l'on ajoute, à tout ce que l'on introduit dans un terroir donné, dans le but d'améliorer les rendements. Historiquement, on peut considérer que le fumier épandu dans un champ est un intrant. Pareil pour l'amendement avec des coquilles d'huîtres, par exemple. Plus largement, les fertilisants et engrais chimiques, les produits phytosanitaires, les herbicides, fongicides ou pesticides, les retardateurs ou activateurs de croissance sont des intrants modernes. Ces nouveaux intrants, relativement nouveaux car ils sont apparus entre les deux guerres mondiales et se sont développés après la seconde, ces nouveaux intrants donc nous viennent de l'essor d'une branche de la chimie, l'agrochimie. L'agrochimie est identifiée à quelques grandes marques comme Bayer ou Monsanto. En partie, hélas, elle est née de la guerre et des recherches accomplies pour mettre au point des gaz toxiques. La révolution verte, qui court de 1960 à 1990, a été une période d'introduction de plus en plus massive d'intrants, surtout de fertilisants et de produits phytosanitaires, ceci dans une logique d'industrialisation de l'agriculture visant de hauts rendements. Au départ, sortant de la Seconde Guerre mondiale, il fallait bien nourrir les populations. Les sujets environnementaux n'étaient pas encore d'actualité et Homo sapiens y est allé de manière brutale et massive. Il faut avoir en tête que la plupart des produits phytosanitaires sont des pesticides. Le mot « pesticide » vient d'un mot anglais « pest » qui signifie « ravageur » et du suffixe « seed » qui signifie « tuer ». Les cibles de ces poisons sont les rongeurs, les insectes ou les champignons, sans oublier les mauvaises herbes, pudiquement qualifiées d'adventices. Le plus souvent, tous ces biocides ont pour effet d'empêcher la reproduction ou plus généralement de tuer leurs cibles. De ce point de vue, ils se sont montrés plutôt efficaces. Où serait alors le problème ? Disons d'abord qu'il y a problème car la sensibilité de nos sociétés occidentales a changé. À la fin du XXe siècle, celle-ci donne la priorité à la préservation de l'environnement, ce qui a conduit à l'automne 2007 au Grenelle de l'environnement. Ce sommet avait décidé de réduire de moitié, en l'espace de 10 ans, l'utilisation des phytosanitaires. La réalisation de cet engagement a été un échec. C'est même assez effarant, car alors que nous tentions de réduire l'usage des pesticides, on enregistrait une augmentation de 12% entre 2009 et 2017. C'est ce qui fait que seuls 3% de nos surfaces agricoles sont épargnées par les pesticides. Il faut dire que l'on commercialise 2900 types de produits phytosanitaires en France, pas simple de s'y retrouver. À l'échelle européenne, 94% des terres agricoles sont polluées par au moins un type de pesticide. Et globalement dans le monde, ce sont les deux tiers des terres agricoles qui sont concernées. Derrière ce constat, parlons chiffres, et même chiffre d'affaires. Le marché mondial des pesticides représente plus de 35 milliards de dollars par an et il a presque doublé depuis 1990. Tout cela pour un succès relatif, les parasites s'adaptent. Pourtant, on sait que de nombreux produits ne sont pas spécialement bons. Un rapport fondé sur une analyse de quelque 4000 articles scientifiques a été rendu début mai 2022, conjointement par l'INRAE et l'IFREMER.